السلام علیکم و رحمت اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
La traduction de ce verset est comme suit. Si nous avions envoyé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais certainement vu s'humilier et se fendre en morceaux par crainte d'Allah. Et ce sont des similitudes que nous proposons aux hommes afin qu'ils réfléchissent. Les cœurs de certains sont si durs que la parole d'Allah n'a point d'effet sur eux, alors qu'Allah a déclaré dans ce verset que si nous avions envoyé ce Coran sur une montagne, la crainte allait réduire cette montagne en 1000 morceaux. Grâce à cette parole de Dieu, l'on comprend que les cœurs de certaines personnes sont plus durs que le roc des montagnes. Ces gens oublient le but même de leur vie. Ces gens oublient aussi celui qui les a créés. Et ils oublient aussi leur fin et la vie dans l'au-delà. Dans la sourate Al-Baqarah, à propos de cette dureté de cœur, Allah déclare « Thumma qasat qulubukum min ba'di thalik » فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Il est dit donc, mais ensuite vos cœurs se sont endurcis au point de devenir comme des pierres et encore plus durs. Car en vérité, il y a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux et il y en a d'autres d'où coule de l'eau quand elles se fendent. Et très certainement, il y a certains parmi eux qui s'humilient par crainte
d'Allah.
Le décret d'Allah et la parole d'Allah et les lois de Dieu ont même de l'effet sur le monde minéral. Mais le cœur de certaines personnes s'endurcit à tel point que, même en voyant le décret de Dieu, ces gens ne veulent pas changer. Ce verset de la sourate Al-Baqarah que j'ai cité parle à propos des Juifs, mais ce verset ne parle pas uniquement d'un événement passé. Ce verset renferme une prophétie. Il est dit que si vous ne cultivez pas la crainte de Dieu, vos cœurs vont s'endurcir. Et en voyant la situation d'aujourd'hui, les musulmans aussi doivent s'en soucier et doivent réfléchir sur leur situation. Ici, en Occident, les politiciens invitent les musulmans pour des rencontres et eux-mêmes, ils organisent des rencontres. Au cours de ces discours, ces Occidentaux louent les musulmans. Mais lorsqu'il est question de prendre une décision, ils prennent tout le temps des décisions qui sont en leur faveur et ils ne prennent pas en considération l'avantage des musulmans. Les musulmans sont donc des citoyens de deuxième ou de troisième classe. Et même dans ces pays musulmans, ce sont les autres qui contrôlent tout. Ensuite, il y a les calamités célestes et terrestres. Pourquoi tout cela? J'ai cité au début un verset de la sourate Al-Hashr et dans le verset précédent, on s'adresse aux croyants. Il leur est dit qu'ils doivent adopter la taqwa et qu'ils doivent préparer quelque chose pour le lendemain et qu'ils doivent se soucier pour leur vie future dans l'au-delà et qu'ils doivent se souvenir de Dieu. Sinon, il est dit que si vous n'agissez pas ainsi, vous allez vous-même perdre votre identité. Vous allez vous empêtrer dans le péché et dans l'iniquité et vous allez faire face à l'ignominie. Réveillez-vous et essayez de sortir des griffes de Satan et emplissez vos cœurs du souvenir de Dieu afin que vous puissiez adoucir vos cœurs. Mais Satan les contrôle à tel point qu'ils ne veulent pas comprendre la vérité. Allah déclare à ce propos dans le Saint Coran: Walakin kasat kulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Leurs cœurs se sont endurcis davantage et Satan a embelli leur action. Au lieu de tirer leçon de chaque calamité, ils commettent davantage de crimes et s'empêtrent davantage dans l'iniquité et le péché. Voyez ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan. Partout, il y a des protestations, il y a des attentats, il y a des meurtres. Des fois, les gens manifestent contre les coupures d'électricité, on manifeste contre la cherté de la vie. Il y a d'autres calamités qui frappent ce pays. Et les leaders font la sourde oreille. Il y a des éditoriaux qu'on écrit dans les journaux en disant que le pays est au bord de la destruction. Une des grandes raisons que j'ai évoquées depuis longtemps est que, mis à part le fait qu'ils ont rejeté l'imam de l'époque, ils ont passé des lois au Pakistan pour légaliser la persécution de ceux qui ont accepté l'imam de l'époque. Mettez fin à ces persécutions en premier lieu. Cessez d'insulter l'imam de l'époque sur chaque papier officiel. Mettez fin à toutes ces actions infâmes. Sinon, le décret de Dieu va agir en faveur de ses bien-aimés. Si un non-musulman prend le nom d'Allah et de son prophète au Pakistan, les autres musulmans sont ravis. Mais si les Ahmadis écrivent le nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur leur mosquée ou sur leur maison, ces gens viennent enlever ces écrits et jettent tout cela dans les caniveaux. Dans de telles situations, ils ne voient pas que des préposés de l'État sont en train de profaner le nom de Dieu. Ils ne voient pas non plus qu'on est en train de profaner la mémoire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on ne voit pas ces choses-là, eh bien, le décret de Dieu entre en action. Voyez un peu l'ignorance des mollahs du Pakistan. Il y a une émission qui a été présentée par M. Obachar Lukman Saheb. Il est courageux de présenter une telle émission. Je ne sais pas à quel point ou jusqu'à quand il pourra faire montre d'un tel courage. Mais au cours d'une de ces émissions, il y avait un de ces oulémas qui a répondu à une question concernant les Ahmadis. Ce mot-là a déclaré que Coca-Cola est une marque déposée et aucune autre compagnie ne peut prendre ce nom, sinon cette compagnie sera poursuivie. Il a déclaré de même, nous sommes les seuls musulmans, nous sommes dits être qualifiés de musulmans. Si les Ahmadis se disent musulmans, ils seront châtiés. Ces oulémas qui lancent de pareils fatwas ont été décrits dans un hadith du saint prophète Mohammed, qui a déclaré qu'à une époque, les gens vont faire des ignorants leurs leaders et ils présenteront leurs questions à leurs leaders. Et sans aucune connaissance, ces leaders vont émettre des décrets. Ces leaders seront eux-mêmes des égarés et vont égarer aussi les autres. Qui est un musulman? Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais qu'il soit clair que s'il existe des gens qui obéissent au doigt et à l'œil au Saint-Coran et au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'il y a des gens qui agissent ainsi et qui portent le titre de musulmans, eh bien ce sont les Ahmadis. Je vais présenter deux hadiths à ce propos dans lesquels le Saint-Prophète a défini les musulmans. C'est cela la seule définition valable et pas la définition présentée par ces ulémas ignares qui associent la marque déposée Coca-Cola avec l'islam. À la lumière de ces hadiths, il sera évident qui est musulman et qui ne l'est pas. Dans un hadith, Abi Malik rapporte que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu alallah » Il a donc déclaré que celui qui déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et qui rejette tous les faux dieux qu'on associe à Allah, sa vie et sa personne seront inviolables. C'est-à-dire, la loi leur accorde protection. En ce qui concerne ces actions, seul Dieu est apte à leur demander des comptes. Seul Dieu connaît les intentions et les gens seront rétribués selon leurs intentions. Après avoir récité la kalima, après avoir prononcé ces paroles, « La ilaha illallah », personne n'a le droit de leur dire quelque chose. Dans un autre hadith, cité par Anas bin Malik, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Man salla salatana wa staqbala qiblatana wa akala dhahbihatana fa dhalika al-muslimu alladhi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulillah fala tughfirullaha fi zimmati » Anas bin Malik rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « La personne qui prie comme nous prions et la personne qui se tourne dans la direction de la Qibla, la personne qui mange l'animal que nous avons égorgé est musulmane. Et Allah et son prophète ont pris la responsabilité de leur protection. Ne violez pas la responsabilité d'Allah, n'outragez point la dignité d'Allah. Je m'adresse à ces ulémas et je leur dis de ne pas faire de l'islam une marque déposée, de ne pas présenter un islam contraire à l'islam d'Allah et de son prophète. L'islam est l'islam défini par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed nous a qualifié de musulmans suite à cette définition. Et après sa définition, nous n'avons pas besoin d'un certificat d'un mollah quelconque ou d'un parlement quelconque. Il y a un autre point que je veux évoquer ici dans le même contexte. Quelques jours auparavant, quelqu'un m'a envoyé un article publié dans un journal et ils ont aussi envoyé les points de vue des gens à ce propos. Les Ahmadis aiment m'envoyer ces articles pour me faire connaître quelque chose à ce propos, ou peut-être pour me demander mon opinion à moi. Dans cet article, il fut dit que M. Altaf Hussein Saheb, leader de la partie MQM, a fait des déclarations ouvertes en faveur des Ahmadis et qu'il a condamné la persécution subie par les Ahmadis au Pakistan. Il a déclaré que ce sont là des choses condamnables et il a déclaré tout cela ouvertement. Un autre journal a repris cette nouvelle et puisqu'ils aiment faire des scoops, ils ont mis en gros titre que Mirza Masroor Ahmad et Altaf Hussein se sont rencontrés à Londres et ils ont fait un plan pour que la MQM puisse avoir du succès au Pakistan et au Punjab. En ce qui concerne la déclaration de M. Altaf Hussein, je pense que tout citoyen pakistanais qui aime sa patrie désirera qu'il y ait la paix en son pays et que l'on mette fin au règne des mollahs et qu'il n'y ait plus de sectarisme et d'intolérance religieuse. Je fus ravi d'apprendre cette nouvelle, que M. Altaf Hussein a fait cette déclaration et qu'il fut courageux de faire une telle déclaration. Cette fois-ci, il a été très courageux et il a fait une déclaration ouverte et cela prouve qu'il veut voir la paix dans ce pays. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ses intentions, car seul Allah connaît les intentions, mais en tout cas, il veut mettre fin au sectarisme et au mollahisme afin que le pays puisse progresser, qu'Allah fasse qu'il ait du succès dans ce domaine et qu'il ne mette pas de l'avant la politique. Mais hier même, lorsque j'ai allumé la télé pour voir le journal, j'ai entendu que M. Altaf Hussein a fait un discours avec les éléments du Khatm-e-Nabouwa et qu'il a pu dissiper leurs malentendus à propos de sa déclaration qu'il avait faite ultérieurement. Je n'ai pas vu les détails à propos de leur appréhension, mais en tout cas, M. Attaf Hussein a consolé les mollahs. Les mollahs contrôlent le pays à tel point que quelques jours auparavant, le Premier ministre du Pakistan a déclaré que je veux faire telle ou telle action, mais j'ai peur des oulémas. Voyez donc un peu le pouvoir que possède le Premier ministre au Pakistan. En ce qui concerne cette rencontre présumée, comme je l'ai dit, les journalistes font des rêves en plein jour et c'est ainsi qu'ils essaient de faire de gros titres. Si rencontre il y a eu, M. Altaf Hussein aurait dû mentionner cela. Mais en tout cas, je vais dire ouvertement qu'Allah accorde du succès à ceux qui veulent protéger ce pays et qui veulent détruire ces murs de haine. Quant à nous, nous aimons notre patrie. Nous avons consenti à des sacrifices pour la construction de ce pays et pour préserver ce pays. Nous avons consenti à ces sacrifices dans le passé et nous allons continuer de le faire à l'avenir, Inch'Allah. Tout Ahmadi doit prier qu'Allah fasse naître de tels leaders dans ce pays. En ce qui concerne la persécution subie par les Ahmadis et en ce qui concerne nos efforts pour mettre fin à ces persécutions, eh bien, nous avons confié notre cas entre les mains de Dieu. Si nous émettons des doléances, nous le faisons à notre Seigneur bien-aimé. Et nous avons cette certitude que tous les plans des hommes seront nuls et non avenus face au plan qu'Allah est en train de faire en faveur des Ahmadis. Et Inch'Allah, certainement, le décret de Dieu va agir en faveur des Ahmadis au Pakistan et dans les autres pays musulmans. Et il sera évident, comme le soleil en plein jour, qui sont les véritables musulmans et qui sont ceux qui souffrent le plus pour l'islam. Je m'adresse aux Ahmadis du Pakistan ou aux Ahmadis d'origine pakistanaise qui habitent ailleurs, qu'ils doivent prier pour leur pays. Prier pour qu'Allah éclaire ses gens et que le pays puisse sortir de ce marasme. De même, les Ahmadis des autres pays musulmans, des pays arabes, doivent prier surtout au cours des séjours bénis du Ramadan. Ce sont des jours de l'exaucement de nos prières. Ce sont des jours pour se rapprocher de Dieu. Prier pour qu'Allah fasse que son décret immuable puisse agir au cours de notre vécu. Je me tourne de nouveau vers le sujet que j'ai présenté au début, mais il était important de faire cette déclaration ici. Allah a déclaré « Law anzalna hadhal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyam mutasaddian min khashyatillah ». Le Messie premier l'Islam a expliqué cela et déclare un des sens de ce verset est que le Coran a été à l'effet que s'il fut révélé sur une montagne, celle-ci aurait été réduite en mille morceaux par crainte de Dieu. Elle aurait été aplanie. Si tel est l'effet du Coran sur les non-vivants, ils sont sourds, ceux qui ne sont pas influencés par le Coran. Un autre sens de ce verset est que l'on ne peut acquérir l'amour de Dieu sans faire naître en soi deux qualités. La première qualité est d'anéantir son orgueil, tout comme à la montagne qui se dresse haut et aplanie. De même, l'homme doit mettre fin à tout orgueil et doit faire preuve d'humilité et de modestie. Et ensuite, il doit briser toutes ses relations, tout comme la montagne qui s'écroule coupe le lien entre chaque pierre. De même, l'homme doit sectionner ses liens d'antan qui furent la cause de sa déchéance et de la colère divine, et doit établir une relation d'amitié et d'amour avec Dieu seul. Donc, on doit briser son orgueil et on doit aplanir le sol de son cœur. Encore une fois, je m'adresse à ces soi-disant ulémas et je leur dis que tant qu'ils ne vont pas baisser leur tête orgueilleuse devant le Messie promis à l'Islam, tant qu'ils ne vont pas agir ainsi, leurs explications sur le Coran et sur l'islam seront ridicules. Pour éprouver de l'amour pour Allah et son prophète, vous devez établir une relation avec l'imam de l'époque. Et vous allez voir comment vous serez honoré de l'Est comme à l'Ouest. Et c'est là que vous allez comprendre les secrets de cette parole pure révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que vous allez comprendre le Coran. Car pour comprendre le Saint-Coran, on a besoin des choisis d'Allah. Tout comme Allah lui-même déclare dans le Saint-Coran, « Innahu la Qur'anun karim, fi kitabim maknoun, la yamassuhu illa al-mutahharun. » Ceci est en vérité un noble Coran dans un livre bien protégé que nul ne touchera sauf ceux qui se sont purifiés. Dans ces versets, Allah informe les non-musulmans du statut et de la noblesse du Saint-Coran. Il est dit que ce livre est un grand trésor. C'est un enseignement qui a été préservé dès le premier jour de sa révélation jusqu'au dernier jour de ce monde. Ceux qui vont en tirer avantage sont ceux qui vont se purifier le cœur en premier. C'est là aussi un conseil pour les musulmans. Il leur est dit qu'il ne suffit pas de se dire musulman pour en profiter. Vous ne pourrez pas profiter tant que vous ne vous purifiez pas le cœur et tant que vous n'essayez pas de comprendre le Coran. Et ils ne pourront pas comprendre ce secret tant qu'ils ne seront pas à la recherche de ces purs à qui Dieu a accordé cette connaissance. Et suite à la prophétie du saint prophète Mohammed, suite aux promesses de Dieu, à notre époque, ce statut fut conféré uniquement à l'imam de l'époque. Il a eu cette connaissance directement de Dieu et nous a présenté les trésors de ce grand livre. Le Messie premier, l'Islam, explique cela en disant « Les vérités et les subtilités du Coran s'offrent à ceux qui se purifient en premier lieu. » Il est évident que pour comprendre le Coran, on a besoin d'un enseignant qui a été purifié par la main de Dieu. Si on n'avait pas besoin d'enseignant pour comprendre le Coran, on n'aurait pas eu besoin d'eux au début. D'aucuns disent qu'au début, on avait besoin d'un enseignant pour résoudre les difficultés du Coran. Mais maintenant, on n'en a plus besoin, car ces mystères ont été résolus. La réponse est qu'après un certain temps, on a besoin de résoudre ce qui a été résolu. Et à chaque nouvelle époque, la Oumma fait face à de nouvelles difficultés. Donc, on voit cela dans la Oumma. À une époque, on croyait que nombre de versets du Saint-Coran ont été abrogés. Ensuite, les purs et les saints de Dieu ont résolu ces difficultés. Et enfin, le comte, le Messie premier des salams, a résolu toutes ces difficultés à propos de ces versets. Donc, on a besoin des mollahs, comme l'a prouvé l'islam. Et ensuite, la seule raison du sectarisme que nous voyons est que un groupe qui a compris quelque chose selon ses désirs applique leur interprétation et se démarque des autres. Laissez de côté les grandes questions. Maintenant, il y a des dissensions même à propos de l'ablution, alors que tout cela a été expliqué clairement dans le Saint-Coran. Le Messie promis à l'Islam ajoute que le Coran est un condensé de toutes les connaissances. Mais cela ne veut point dire que toute sa connaissance va se manifester à une seule époque. La connaissance du Coran va s'ouvrir face aux nouvelles questions. Et pour résoudre ces difficultés, on enverra à chaque époque des enseignants spirituels. Dans son khutbah ilhamiya, le Messie premier al-Islam déclare que d'aucuns disent que nous n'avons pas besoin de Messie et de Mahdi et que le Coran nous suffit et que nous sommes sur le droit chemin. Alors que ces gens savent que le Coran ne peut être compris que par les purs. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un enseignant qui a été purifié par Dieu. Un enseignant qui a été éclairé par Dieu. Les musulmans sont dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui car ils ont refusé cet imam qui a été enseigné par Dieu. Les gens ont refusé cet imam, comme je l'ai déclaré. Le salut des musulmans et la dignité et l'honneur de la Oumma réside dans le fait que l'on doit suivre les préceptes de l'imam. Dans un de ses écrits, le Messie premier al-Islam déclare la vérité et que la tâche du Messie et du Mahdi est de mettre fin aux disputes et d'accorder la victoire à l'islam par la plume et par la prière. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris cela, car les gens sont plus intéressés par le monde que par la foi. Et les gens se sont empêtrés dans les impuretés de ce bas monde. Comment peut-on avoir l'espoir que les vérités du Coran vont s'ouvrir à eux? Il est dit « La yamassuhu illa al-mutahharoun ». Les musulmans ordinaires doivent réfléchir à ce propos et nous devons, quant à nous les Ahmadis, comprendre nos responsabilités. Au cours de ce mois béni, priez en tant qu'Ahmadi pour que Dieu purifie nos cœurs afin que nous puissions profiter des bénédictions du Coran, tout comme Allah le désire pour un vrai croyant. Et ces explications nous ont été présentées par l'imam de l'époque. Dieu a évoqué la beauté du Saint-Coran dans nombre de versets et dans nombre d'endroits. Je vais citer quelques exemples ici, des exemples qui démontrent le statut réservé à ceux qui suivent ces directives coraniques. Des gens qui se purifient le cœur pour comprendre le Coran. À ce propos, je vais citer un hadith qui a été présenté par Sahal bin Mu'az, qui rapporte de son père que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: celui qui a lu le Coran et qui l'a mis en pratique, au jour de la résurrection, ses parents vont porter deux couronnes, des couronnes qui vont briller plus que le soleil qui les avait éclairés sur terre. Si tel est le statut de ses parents, imaginez un peu le statut qui sera conféré à cette personne qui va suivre le Coran. Le Messie premier a aussi déclaré que ceux qui honorent le Coran seront honorés au ciel. Cet honneur nous sera accordé lorsque nous allons suivre et mettre en pratique les préceptes du Coran. À propos de la perfection du Coran et de ses enseignements sublimes, le Messie premier déclare que, puisque le Coran est le dernier livre et le livre parfait, et puisque c'est le plus beau des livres, c'est pour cette raison que ses enseignements sont basés sur la perfection. Et dans tous les domaines, la loi de la nature accompagne la loi de la charia afin de protéger les hommes de l'égarement. Et il a été décidé que l'homme sera sans vie, qu'il ne sera point capable de pardonner ou de se venger tant qu'il n'aura pas la permission de Dieu. Donc, on doit mettre en pratique sincèrement tous les commandements du Coran. Et c'est ainsi que toutes nos actions seront en accord au plaisir de Dieu. Et ces enseignements ne sont pas des enseignements qui dépassent les aptitudes de l'homme. Ces enseignements sont en accord à la nature de l'homme. Allah lui-même en a fait mention dans le Saint-Coran. Par exemple, à propos du jeûne, Allah déclare « Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ». C'est-à-dire qu'Allah veut la facilité pour vous et il ne désire pas les difficultés pour vous. C'est là un principe qui a été énoncé. C'est-à-dire que les enseignements du Coran sont en accord à la nature de l'homme. Et il n'y a que des facilités dans ces enseignements. Ces enseignements sont en accord à vos aptitudes. Allah ne désire pas vous mettre en difficulté. Et ensuite, ces enseignements vont vous faire connaître ces statuts élevés qui vont vous rapprocher de Dieu. Ensuite, Allah déclare dans un autre endroit: en vérité, nous avons rendu le Coran facile en guise d'admonestation, mais y a-t-il quelqu'un qui voudrait être admonesté? Ici, il n'est pas dit qu'il suffit de donner des conseils et d'écouter ces conseils. Ici, il est dit que vous devez traduire dans la pratique ces conseils. Il sera erroné de dire que ces conseils sont difficiles à mettre en pratique. C'est là la parole de Dieu, Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui connaît les capacités de chaque personne.
Que
Dieu annonce ici que ces conseils sont en accord aux capacités et aux aptitudes de l'homme. Est-ce que vous allez tergiverser et vous demander comment mettre en pratique ces enseignements? Suivez cet enseignement, et tout comme l'a déclaré le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, vous serez récipiendaire d'innombrables faveurs de Dieu. Ensuite, dans ce Coran, l'on trouve mention de l'état des peuples d'antan. Tout cela a été évoqué afin que vous puissiez en tirer leçon et afin que vos actions soient en accord aux préceptes de Dieu. Et afin que vous puissiez éviter les calamités qui ont été réservées aux peuples d'antan. Dans un autre verset, Allah déclare que l'enseignement du Coran est éternel. Il déclare « Rasulum min Allahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyim » un messager de la part d'Allah le récitant des écritures purifiées et dans celles-ci se trouvent des commandements éternels. À ce propos, le Messie, comme il est cela, a fait des commentaires. Il déclare que celui qui a porté le Coran jouit de ce statut, Yatlu Surfun Mutahara, Fiha Kutubun Qayyim, ce livre qui renferme toutes les vérités et tous les autres livres. Kitab signifie toute parole que l'homme accepte et comprend qu'il doit traduire dans la pratique. Ce sont des enseignements que l'homme sait qu'il doit mettre en pratique et qu'il peut mettre en pratique. Le Coran renferme des sagesses et des connaissances et il ne s'y trouve aucune parole inutile. Le Coran s'explique soi-même et le Coran subvient à tout besoin. Le Coran est ainsi dans tout domaine. Si quelqu'un refuse d'accepter ce fait, nous sommes prêts à lui en montrer la preuve. Ici, le Messie premier a lancé un défi. Il déclare qu'aujourd'hui, on est en train de s'attaquer à Dieu et à son unicité. Et cela se passe encore aujourd'hui. On s'attaque à Dieu en écrivant des livres. Donc, il est important de lire davantage le Coran. Le Messie premier d'Islam déclare qu'on est en train de s'attaquer à Dieu. Et les chrétiens aussi ont beaucoup écrit, mais tout ce qu'ils ont écrit sont à propos de Dieu, de l'islam, et pas à propos de cet humble serviteur de Dieu qui a été crucifié. Celui qui écrira quelque chose contre Dieu devra retourner en fin de compte vers ce Dieu présenté par l'islam, car ce Dieu est présent dans chaque page du livre de la nature, et l'homme a en lui l'image de Dieu, et c'est là un fait tout à fait naturel. Si ces personnes font quelque chose, ce sera dans la direction de l'islam. C'est là un des grands miracles du Coran. Si les gens n'acceptent pas que le Coran est la parole de Dieu, nous leur présentons cette épreuve. Et nous leur disons de présenter des preuves de l'existence de Dieu selon la science et nous allons tirer nos preuves à nous du Saint-Coran. Et nous allons tirer toutes nos preuves de l'existence de Dieu du Saint-Coran et qu'ils essaient de présenter des arguments qui ne se trouvent pas dans le Coran ou de présenter des enseignements qui, selon eux, ne se trouvent pas dans le Coran. Et nous allons leur démontrer que l'argument du Coran « Fiha Kutubun Qayyima » est un argument indéniable. et qu'ils présentent selon eux la religion naturelle et essentielle, et nous allons prouver le miracle du Coran dans ce domaine. Nous allons prouver que toutes les vérités et tous les enseignements purs sont préservés dans le Coran. Le Coran est un livre qui renferme toutes les vérités et tous les secrets, mais pour comprendre cela, on a besoin d'un pouvoir sanctifiant. Allah lui-même déclare que la yamassuhu illa al-mutahharun. Ce livre est un trésor de connaissances et de direction, et celui qui lit ce livre sera tout le temps guidé dans la bonne direction. Ce défi a été lancé par le Messie premier l'Islam, et ce défi est toujours là aujourd'hui. Et ses suivants ont aussi suivi ses préceptes et ont prouvé que la vérité du Coran s'applique à toute époque. La théorie présentée par le professeur Abdussalam prouve l'unicité de Dieu et l'authenticité du Saint-Coran. Les scientifiques Ahmadi doivent donc tout le temps méditer en ayant en tête cette vérité, et certainement Allah va les guider dans la bonne direction. À propos de la direction spirituelle, Allah déclare dans le Saint-Coran que ce Coran renferme des connaissances spirituelles, et ce Coran renferme aussi les connaissances du futur. Il déclare « Wa atlu al-Qur'ana fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi ». Récite le Coran et celui qui sera guidé dans l'avantage de son propre
âme.
Mais on ne pourra comprendre ces directives que si l'on se purifie. L'on doit se purifier en premier. Et c'est là que l'on pourra comprendre le Coran. Ensuite, il est dit que le Coran renferme toutes les connaissances. On y trouve mention des excellences morales de base. Et le Coran nous mène vers des connaissances élevées, tout comme Allah déclare dans la sourate Yunus: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. وما يحزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Et tu n'es plongé dans aucune occupation, et tu ne récites de sa part aucun passage du Coran, et vous ne faites aucun travail sans que nous vous surveillions quand vous y êtes occupés. Et rien n'est caché au regard de ton Seigneur, même ce qui ne pèse pas plus qu'une particule, ou moins que cela, ou plus que cela, dans la terre et dans les cieux. Tout cela est enregistré dans un livre clair. Ce verset prouve la grandeur de Dieu, c'est-à-dire qu'Allah voit tout. Il voit ce qui est visible, ce qui est invisible. Il voit ce qui est proche et ce qui est loin. Il voit ce qui est proche de nous et ce qui est loin de nous. Allah voit tout et connaît tout. Cette annonce présentée ici s'applique aux croyants et s'applique aussi aux non-musulmans. Il est dit que ce livre vient de la part de Dieu, Dieu qui possède une connaissance parfaite. Et on y trouve toute forme de connaissance, on y trouve des avertissements, des connaissances concernant le passé. On y trouve aussi mention des responsabilités de ceux qui acceptent le Coran. C'est pour cette raison qu'après la révélation de ce livre, Allah l'a préservé jusqu'à présent, et après sa révélation, Ceux qui vont le rejeter n'auront pas d'issue de sortie, et ceux qui l'acceptent mais qui ne pratiquent pas ses préceptes n'auront point d'excuse non plus. Ceux qui ont accepté le Saint-Coran doivent comprendre que vous avez accepté la vérité. Vous devez partir dans la bonne cape et vous allez devoir faire en sorte que vos intentions soient sincères. Et vous devez aussi faire votre analyse de conscience. Il ne suffit pas de dire que nous lisons le Coran et cela nous suffit. Il ne suffit pas de dire que nous allons inviter le monde vers le Coran, mais nous devons apporter en nous des changements. Nous devons voir quels sont les effets de cette lecture. Nous devons voir si, en raison de ces changements, nous avons pu influencer les autres positivement. Avons-nous pu inviter ces gens vers l'islam? Allah n'est le parent de personne. Suite à ses promesses, il a tout expliqué dans le Coran. Et il a aussi envoyé, suite à ses promesses, le Muallim ou l'enseignant de l'époque. Et ainsi, il nous a fait comprendre que ceux qui ont accepté cet imam auront des comptes à rendre. S'ils n'ont pas mis en pratique ces enseignements, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Et ceux qui l'ont rejeté aussi auront des comptes à rendre. Il leur sera dit que vous avez vu ces signes clairs et ces enseignements clairs. Pourquoi avez-vous refusé d'accepter l'imam de l'époque? Allah sait le mieux comment il va traiter ceux qui l'ont rejeté. Mais nous devons mettre nos comptes à jour et nous devons réciter ce livre et nous devons faire des efforts pour mettre en pratique ces enseignements. En évoquant les excellences du Coran, le Messie premier des salam déclare que si nous ne possédions pas le Coran et si notre foi et notre doctrine dépendaient uniquement des hadiths, nous aurions fait à l'humiliation. J'ai médité sur le mot Coran et j'ai compris que dans ce mot, il y a une grande prophétie. Cela signifie que le Coran est un livre qui mérite d'être lu et ce sera le seul livre qui sera lu alors qu'il y aura aussi d'autres livres. Pour préserver l'honneur de l'islam et pour repousser le mal, il n'y aura que ce seul livre et on devra abandonner tous les autres livres. Furqan signifie la même chose, c'est-à-dire que c'est ce seul livre qui fait la distinction entre la vérité et le mensonge, et aucun autre hadith ne jouit du statut de ce Coran. Laissez de côté les autres livres et lisez le livre d'Allah. Il sera 100 fois celui qui abandonne le Coran pour lire d'autres livres matin et soir. Notre jamaat doit se consacrer à la lecture du Coran. Ils doivent méditer sur ce livre et doivent abandonner les hadiths. Malheureusement, les gens ne consacrent pas assez de temps au Coran comme ils consacrent du temps aux hadiths. Prenez le Coran de votre main et vous allez avoir la victoire. Et qu'il soit clair ici que c'est vrai que le Messie premier des salam a dit que l'on doit laisser de côté les hadiths et qu'on doit se tourner vers le Coran. Mais il a aussi ajouté que l'on doit suivre ces hadiths qui sont en accord au Coran et qu'on ne doit pas dépendre des hadiths qui ne sont pas en accord au Coran. Il déclare aussi que sans le Coran, vous n'aurez pas de succès. Un tel succès sans le Coran sera pure imagination. Ayant tête l'exemple des compagnons, ils ont accordé prééminence à Dieu lorsqu'ils ont suivi le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils ont donné prééminence à la fois sur ce bas monde et toutes les promesses de Dieu faites en leur faveur ont été réalisées. Au début, ils ont été moqués par les autres. Ils disaient qu'ils ne pouvaient même pas sortir de chez eux alors qu'ils parlaient de souveraineté. Mais en étant obéissants au saint prophète Mohammed B. Sassali, ils ont acquis ce qu'ils n'avaient pas pu acquérir au cours des siècles et des siècles. Notre victoire réside dans le fait que nous devons suivre le Coran, qu'Allah nous en donne la possibilité et qu'Allah rapproche la victoire de l'Ahmadiyya. Avant de terminer, je vais annoncer un autre décès. C'est le décès d'un de nos missionnaires du Canada, Mohammed Tariq Islam Saheb, qui est décédé deux jours auparavant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 54 ans. Il est décédé d'un cancer de foie ou de la rate. Il est décédé après une courte maladie. En 1971, il a eu son diplôme de Shahed. Ensuite, comme missionnaire, il a travaillé au Pakistan. Il a travaillé dans la Wakalete Oulia à Rabat. Il a été envoyé en Italie, mais il n'a pas eu de visa. Il a dû retourner après quelques mois. Il a travaillé dans le bureau de Tabshir et depuis 1993, il se trouve au Canada. Il a travaillé à Vancouver et à Ottawa. Et c'était une personne très humble et affable, une personne qui possède de grandes qualités, une personne qui était toujours prête à aider ses proches et les indigents. Qu'il avait une bonne connaissance des traditions de la Jamaat et il possédait aussi un très grand sens d'obéissance. Il avait un très grand amour pour le calife. Tout Ahmadi, tout missionnaire éprouve de l'amour pour le calife, mais l'amour de certains sont extraordinaires et il fait partie de cette catégorie de gens. Jamais il n'avait de doléances à faire. Il travaillait avec sérieux. Lorsque j'étais en tournée au Canada, il travaillait dans le bureau du secrétaire privé et s'occupait des audiences des gens avec moi. Et il travaillait avec sérieux tout le temps. Qu'Allah exalte son statut. Qu'Allah lui accorde aussi son pardon. Il a laissé derrière lui sa femme et ses cinq filles. Deux de ses filles se sont mariées et la plus jeune a 12 ans. Qu'Allah leur accorde patience et qu'Allah leur accorde aussi sa protection. Il est le beau-frère de notre missionnaire d'ici, Majid Sialkoti Saheb. Et son frère Hafiz Tayyab Saheb travaille au Ghana et il n'a pas pu participer aux funérailles de son frère au Canada. Qu'Allah accorde la patience à tous ses parents et après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire.